une nouvelle journée de mobilisation est donc organisée à Paris aujourd'hui pour maintenir la pression sur le sujet du climat. 140 organisations appellent à participer à ce qu'elles appellent la marche du siècle. Le départ vient de se faire à Paris, place du Trocadéro, et les revendications sont les mêmes: dénoncer l'urgence sociale et climatique et exiger des réponses du gouvernement. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre invitée Geneviève Azam. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc économiste et membre du conseil scientifique d'ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Tout d'abord, cette question peut-être, quel regard portez-vous sur cette mobilisation en faveur du climat? C'est du jamais vu en France?
Oui, c'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Et je pense que cette mobilisation est appelée à s'amplifier. Nous sentons bien qu'aujourd'hui, ces questions climatiques, écologiques, sont réellement surplombantes parce qu'elles touchent les conditions de vie élémentaires de l'ensemble de la population. Donc, c'est un moment extraordinaire. C'est un moment que nous devons célébrer aussi. Ce soulèvement aussi des jeunes, qui est un soulèvement de conscience par rapport à peut-être des générations qui ont été trop longtemps, je dis parfois, asphyxiées par de la surconsommation, par de la surconsommation d'énergie. Et donc c'est un réveil salutaire.
Aujourd'hui dans la rue également, donc les gilets jaunes pour l'acte 18 du mouvement. On s'en souvient, à l'origine de ce mouvement, c'était la hausse de la taxe carbone sur le carburant qui a finalement été annulée donc par le gouvernement. Comment décarboner aujourd'hui l'économie finalement? Parce qu'on a vu l'échec du gouvernement avec cette taxe carbone. Quels sont les outils aujourd'hui?
Alors, les outils pour décarboner l'économie sont assez nombreux. Bon, certains peuvent être plus massifs que d'autres. En tout cas, il faut, au moins, si on veut taxer, il faut taxer les émissions de carbone à la source. Et certainement, avant même de taxer, il faut réduire drastiquement, mais vraiment drastiquement, l'utilisation des énergies fossiles. Mais je dirais à la source, bien sûr aussi à la consommation, nous pourrons en reparler, mais d'abord à la source, parce que le refus de la taxe carbone, elle n'a pas été simplement le refus de la taxe carbone, c'est le refus d'une taxe simplement sur la consommation qui exonère ceux qui émettent le carbone. Les entreprises, les transports maritimes, le transport aérien qui sont exonérés de cette taxe carbone pour justement taxer les consommateurs. Or, aujourd'hui, beaucoup d'études montrent qu'une taxe carbone même si elle était réalisée de la manière la plus juste possible, n'est pas efficace à très court terme, parce que aujourd'hui nous sommes pris dans un système qui nous contraint aussi, dans des structures qui nous contraignent, un habitat, un urbanisme, des modes de déplacement qui ne peuvent pas être changés du jour au lendemain et qui enferment certaines personnes dans une obligation finalement, une contrainte. Et donc, on sait, bon, en termes économiques, on appelle cela l'élasticité, même si le prix de l'essence augmente, nous savons que la consommation ne diminue pas obligatoirement parce que il n'y a pas le choix. Donc, avant de taxer, il faut que les consommateurs puissent avoir le choix. Et s'ils ont le choix, à ce moment-là, leur responsabilité, effectivement, est engagée. Et on peut envisager une taxation de comportements qui seraient des comportements prédateurs. Mais cela suppose d'avoir le choix. Or, aujourd'hui, nombre de personnes n'ont pas le choix. Donc, certainement, cette taxe carbone est présentée bien souvent de façon indépendante comme la mesure qui permettrait la transition écologique. Bon, cela, c'est une mystification, puisqu'il s'agit bien de l'ensemble de la fiscalité qui est à revoir. C'est pas simplement la taxation carbone. Aujourd'hui, ce qui s'est exprimé aussi avec les gilets jaunes en France ou d'autres mouvements à l'étranger, c'est une exigence de justice. C'est le refus des injustices. Et donc, une taxe, comme tous les impôts, ne peuvent être véritablement appropriés que s'ils symbolisent la justice. Alors, cette taxe, là, telle qu'elle avait été proposée, symbolisait l'injustice et, de plus, n'était pas affectée à la transition écologique.
Madame Azam, cette justice dont vous parlez, est-ce qu'elle passerait par exemple par une taxe sur les transports aériens? Parce que c'est vrai que pour beaucoup, cette taxe sur les carburants, aujourd'hui, elle pénalise finalement les gens qui viennent des classes les plus défavorisées.
Absolument.
Alors que ceux qui prennent l'avion et donc ceux qui utilisent du kérosène auraient peut-être plus les moyens d'accepter et de faire face à cette taxe aujourd'hui.
Absolument. Bien entendu, c'est ce que nous demandons, que soit inclus dans la taxe à la fois le transport aérien, le transport maritime aussi. Le transport maritime, c'est un vecteur très très puissant de l'économie carbonée et des catastrophes écologiques. On en a quelques exemples récents, d'une part, mais d'autre part aussi, c'est la taxation des entreprises, parce que aujourd'hui, les entreprises, les plus grandes entreprises polluantes, elles sont assujetties au marché du carbone européen. Mais on leur distribue le plus souvent de manière gratuite ou à très bon marché des permis d'émission qu'elles échangent sur un marché du carbone. Or, le prix de la tonne de carbone sur ce marché, qui est un échec absolument total, est très bas. Donc finalement, ces grandes entreprises polluantes ne participent pas de l'effort collectif concernant le paiement de la pollution. Donc là aussi, il faudrait que les entreprises polluantes soient soumises également à cette taxation. Et à ce moment-là, on pourrait envisager, ces conditions étant requises, une taxe qui serait une taxe redistributrice. La fiscalité, elle n'a pas pour seule fonction de modifier les comportements. En plus, dans ce domaine, les comportements ne sont pas élastiques au prix. Elle a aussi pour fonction une redistribution des richesses, la taxe ou la fiscalité. Et c'est aujourd'hui cette fonction de redistribution que la fiscalité, en général, n'assume plus et plutôt produit l'inverse avec l'évasion fiscale, etc., qui n'est plus supportée et qui n'est plus supportable.
Une dernière question en quelques mots, Madame Azam. Que pensez-vous de cette proposition qui a été faite donc par le climatologue Jean Jouzel et l'économiste Pierre Larouturou? Ils envisagent de créer, par exemple, une banque publique européenne du climat. Qu'en pensez-vous en quelques mots?
Alors, l'idée de fonds publics pour financer les ruptures et les transitions dont nous avons besoin, bien sûr que nous sommes d'accord. Qu'il s'agisse aussi d'une politique véritablement européenne, c'est une nécessité absolue du fait de l'intrication de toutes ces sociétés et de ces économies. Ensuite, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une relocalisation des activités. Si on veut passer à une société décarbonée, à une économie décarbonée, cela ne peut pas se faire seulement avec des grands projets structurants à un niveau européen. Il faut évidemment du financement public, des banques dédiées à cela, oui, des banques de la transition, oui, mais il faut s'assurer qu'elles puissent véritablement être des outils pour une relocalisation, reterritorialisation des sociétés.
Merci Madame Azam. Geneviève Azam, je suis désolée de vous couper, économiste et membre du conseil scientifique d'Attac.